Bonjour Frédéric Launay.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin.
C'est avec plaisir.
Alors Frédéric, pourriez-vous nous rappeler vos missions et leurs évolutions au sein de l'Agence de l'eau ?
Du coup, je suis arrivé à la création du poste agriculture à la délégation, donc au moment où la délégation territoriale de Montpellier assumait la compétence agriculture. Auparavant, cette compétence étant assumée au niveau du siège à Lyon.
D'accord.
Pour tout le territoire RMC. Donc au début, ce poste visait vraiment à prendre en charge les différentes actualités au niveau de la relation agriculture-eau. Et le poste a évolué en fonction de ces actualités. Donc il y a eu au début, par exemple, les opérations MIEUX. C'était des opérations de lutte contre la pollution diffuse, mais à des échelles très longues. Donc c'était fin des années 90.
D'accord.
Et jusqu'au milieu des années 2000. Puis on a fait une étude évaluative qui a montré les limites de ce type de démarche, ce qui nous a conduit à nous réorienter vers des acteurs locaux, organisations de producteurs, coopératives, collectivités. Et on a initié ce qu'on appelle un défi territorial. C'était une initiative, une nouveauté du 8e programme d'intervention dans les années 2004-2005. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on a commencé à travailler sur le thème de la pollution diffuse par les pesticides et qu'on s'est attaché à travailler avec des acteurs locaux, des coopératives, des ODG ou des mairies. Et on s'est intéressé à ce moment-là à des captages d'eau potable. Donc c'était bien avant les
LSCE. Avant les captages Grenelle.
Voilà, et les captages Grenelle ou prioritaires. Et puis le poste, le poste a vraiment évolué. Voilà, au fil de l'actualité. Et à partir de 2007, c'est devenu vraiment un poste de spécialiste, d'expert en pilotage de politique. Sur les captages prioritaires, l'expertise agronomique et après est arrivé le financement dans le cadre des PDR.
D'accord, très bien. Ça, c'était en quelle année ? 2014,
du coup, l'agence est intervenue à partir de 2009 dans le cadre du PDRH hexagonal et par la suite le PDR régional jusqu'à maintenant.
Très bien. Et vous avez été référent captage prioritaire pendant un certain temps également.
Référent captage prioritaire depuis la publication des textes ZSCE, donc 2007, jusqu'à 2018.
D'accord. Plus de 10 ans.
Plus de 10 ans, tout à fait.
Et Frédéric, pourquoi est-il si important de préserver nos ressources en eau potable ? Est-ce qu'il s'agit d'un enjeu d'avenir ?
Pour moi, c'est vraiment important et c'est un enjeu d'avenir dans la mesure où les ressources concernées sont des ressources en eau locales. Donc après, ça renvoie à la perception de chacun, mais pour moi, ça renvoie à la vie du territoire. C'est un enjeu du territoire. Le territoire est valorisé par des activités économiques, on y retrouve des activités sociales, la vie des territoires. Et entre autres choses, la préservation de l'environnement, la préservation des ressources en eau, c'est quelque chose qui apparaît comme logique quelque part. Mmh. Et puis ça renvoie à des équilibres de vie, de choix, de décision à l'échelle des territoires qui sont importants, qui correspondent à des identités quelque part de territoire. Et après, on va dire de façon très économique, valoriser des ressources en eau locale, c'est aussi s'attacher à limiter les coûts de production d'eau potable, donc ça paraît normal.
Tout à fait. Et est-ce que vous étiez déjà sensibilisé à cette problématique avant d'assumer la mission captage prioritaire ou l'opération défi à l'Agence de l'eau ?
Alors du coup, sensibiliser à la problématique eau potable, pas spécifiquement, non. Moi, j'ai vraiment une formation agricole et je me suis toujours intéressé à la relation agriculture-environnement. C'est vraiment ma spécialité et ce qui m'intéresse encore aujourd'hui. Donc l'alimentation en eau potable, c'est un des aspects auxquels j'avais pas forcément réfléchi, que j'avais pas forcément creusé auparavant, mais c'est une thématique qui est vraiment l'interface de l'agriculture et de l'environnement. Non, j'avais pas cette sensibilité, mais du coup moi ce qui m'intéresse encore aujourd'hui, c'est vraiment la relation à l'animation des territoires. Ça revient à ma réponse de tout à l'heure, c'est que les choix des décisionnaires locaux, c'est les équilibres locaux, la vie du territoire qui fait pour moi un des éléments d'intérêt de ces démarches eau potable.
D'accord. Est-ce que l'eau est un indicateur d'équilibre justement du territoire ? Est-ce que si on regarde une analyse de qualité de l'eau, est-ce que ça reflète quelque chose comme un équilibre, un bon fonctionnement du territoire, pour le dire ainsi ?
Ouais, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur. Je dirais non, parce que du coup, déjà une analyse, après ça
Oui,
rentre à
ou
des
une
limites de
chronique
protocole
d'analyse,
et
bien
tout
sûr,
ça.
bien sûr.
Mais non, mais après, l'eau et les milieux aquatiques, leur fonctionnement, leur préservation, c'est effectivement un bon indicateur de la relation que l'homme entretient avec son environnement sur un territoire donné, y compris les agriculteurs.
Tout à fait.
C'est-à-dire, on a des territoires où les zones humides sont préservées. Et puis on a d'autres territoires où les chambres d'agriculture prônent le drainage des zones humides, encore
D'accord,
aujourd'hui,
bien
ce qui est
sûr.
complètement paradoxal. Mais on, voilà, c'est bien ça, c'est bien ça que ça pointe à mon avis.
En dehors du cadre professionnel, quel est votre grain de sel quotidien à la démarche de protection des ressources en eau?
Bah ça, c'est mes comportements de citoyen,
Exactement,
quoi.
exactement.
Enfin, forcément, moi je suis conditionné quasiment sur la gestion de la ressource et puis plus globalement sur les gestes du quotidien qui ont un impact à l'environnement, donc la gestion des déchets notamment. Oui, dans mes gestes du quotidien, je fais particulièrement attention à économiser l'eau. J'ai même un suivi très précis
Ah oui.
de mes consommations d'eau.
D'accord.
C'est pas bon d'avoir une adolescente à la maison. Mes enfants sont vraiment sensibilisés à tout ça aussi. D'ailleurs, ma fille qui est aux États-Unis, sa première réflexion, c'était de dire que ça servait à rien qu'on s'attache à lutter contre
Les
les changements
pollutions.
du climat, les changements
Ah
climatiques,
bon.
ou à lutter contre la pollution, vu le comportement des Américains.
Ah,
Donc,
d'accord.
voilà.
Aïe.
Donc, il y a cette sensibilité chez mes enfants. Et puis, bah, du coup, moi, je soutiens vraiment l'agriculture locale par mes actes d'achat et puis l'agriculture biologique.
Tout à fait, tout à fait. Est-ce que la qualité de l'eau, d'après vous, est un sujet qui préoccupe franchement les Français?
Bah oui. La qualité de l'eau, la qualité de l'environnement, c'est une grosse préoccupation des citoyens au sujet. J'ai envie de dire jusqu'à l'excès, parce que alors, du coup, c'est un peu mon côté agricole qui ressort, mais jusqu'à l'excès dans la mesure où, sur la base d'un défaut d'information, défaut de communication, on peut avoir des comportements qui impactent vraiment les agriculteurs.
Tout à fait.
J'ai en tête une discussion que j'avais eue avec un agriculteur dans les Pyrénées-Orientales, c'était un arboriculteur bio qui se fait menacer,
Aïe.
klaxonner
Ah
quand il
oui.
traite. Donc vraiment, il y a des défauts de communication. Mais du coup, ça montre vraiment l'intérêt que les citoyens ont pour la qualité de leur alimentation, la préservation de l'eau, la préservation de l'environnement, et le besoin, notamment de la part du monde agricole, de mieux communiquer, de
De
plus
mieux
communiquer.
rassurer en fait un peu la population locale.
Ouais. Bon après, l'agriculture doit aussi s'attacher à progresser, mais tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir.
Des acteurs locaux, vous en avez suivi des centaines dans ces presque 20 ans de carrière, des collectivités, des associations, des organisations professionnelles ou bien des agriculteurs individuels. Sentez-vous que les mentalités ont changé au sujet des pollutions de l'eau? Qu'est-ce que vous avez mis dans la balance pour tenter de faire changer d'avis ces gens-là?
Il y a deux choses. Je pense effectivement que les mentalités ont changé au sujet des pollutions de l'eau. Et heureusement, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on travaille, on collectivement, enfin un réseau important d'acteurs à l'échelle du Languedoc-Roussillon, travaillons sur la préservation de la ressource en eau, avec une très forte présence humaine de l'animation, de la concertation. Évidemment que ça a porté ses fruits, qu'il y a eu une évolution des mentalités, des savoir-faire, de très nombreux projets. Il y a 10 ans, on ne savait pas faire lutter contre la pollution diffuse, on ne savait pas,
Oui.
on connaissait même pas l'argumentation qu'on pouvait développer pour convaincre des agriculteurs, des groupes d'agriculteurs ou même des élus de collectivités pour s'engager sur ce type de projet. La première démarche, ça a vraiment été de convaincre les élus, ne serait-ce que de créer des postes d'animation. Ça a été vraiment une étape importante. Donc, on en est loin aujourd'hui de cette étape. Il y a eu une vraie évolution dans les mentalités et dans les savoir-faire. Au niveau des agriculteurs aussi, il y a eu une évolution dans les mentalités. Les gens à qui je m'adresse, qui sont pas, c'est pas un échantillon représentatif, mais ont développé une sensibilité. Une sensibilité, ils sont très conscients de l'impact de leurs gestes, de leurs actions sur leur environnement et les ressources en eau. Aujourd'hui aussi, il y a une demande
Tout à fait.
des acheteurs, des
Croissante,
marchés,
en
une
plus.
croissance déjà très importante depuis 2-3 ans. Et puis là, maintenant, on est vraiment dans une dynamique très de fond, hein, vraiment. De fait, les acteurs agricoles aujourd'hui, soit par motivation personnelle, soit par un intérêt compte tenu de la demande des acheteurs, développent des pratiques visant à limiter l'impact de leur activité sur leur environnement et les ressources en eau. Après, sur l'évolution des mentalités, notamment du monde agricole, c'est vrai que s'attacher à aborder le sujet de manière, on va dire, positive, non pas en parlant de pollution, mais en parlant de projet, tout de suite, on rentre dans une relation de construction. pas de jugement. Et je pense que ça,
Très
enfin,
bien. Ouais.
c'est une base d'échange qu'on doit avoir, respecter lorsqu'on s'adresse au monde agricole. Pour répondre à la deuxième question sur qu'est-ce que j'ai mis dans la balance pour tenter de faire changer les avis, c'est surtout ça en fait, respecter, enfin vraiment respecter la cohérence des choix des agriculteurs et groupes d'agriculteurs et puis s'attacher à les faire évoluer et sans forcément revenir ou s'arrêter sur la notion de pollution tout simplement. Voilà, parler projet plutôt que pollution, oui c'est ça,
D'accord.
tout à fait.
Très bien. Souvent, on met en contradiction l'argument santé et l'argument environnement. Est-ce qu'il faut justement s'attacher plus à un argument qu'à l'autre?
Après, ça renvoie à la sensibilité de chacun. Sur le territoire Languedoc-Roussillon, il y a des projets dont l'émergence a été facilitée pour des questions de santé, plus qu'on ne croit, plusieurs. Tout de suite, enfin, ça touche vraiment les hommes et les femmes en tant qu'individus, quoi.
Eh oui.
Hein? C'est deux entrées complémentaires.
Complémentaire. Développement territorial et concertation locale autour de la problématique pollution ou préservation de la qualité de l'eau ont dû être très certainement deux aspects forts de votre mission. Dites-nous, Frédéric, sur ce volet, quel a été votre apprentissage le plus marquant?
Concertation locale, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose que l'on fait spontanément. Ça demande des capacités, enfin de la disponibilité, des moyens d'animation, du temps et du savoir-faire. En termes d'organisation, il y a un certain nombre de préalables à respecter. Donc c'est pas quelque chose qui s'improvise. Alors moi, dans mon parcours, je suis retourné à l'école en tant qu'adulte. Poursuivre une spécialité du diplôme d'ingénieur à Supagro, la spécialité Terpa.
Très intéressant.
Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert un peu tout ça et que j'ai pris conscience de l'intérêt de construire un certain nombre de protocoles, de préalables, enfin de construire vraiment un format projet pour vraiment être en capacité d'organiser une concertation.
Préparer le terrain au
Ouais,
changement, en
tout
fait.
à fait. Tout à fait. Donc moi, j'ai progressé à ce moment-là. Et sur le développement territorial, bon, bah, ça, c'est plus dans mes cordes, dans la mesure où j'ai vraiment cette sensibilité personnelle qui a été renforcée par ce temps de retour à
De
l'école,
formation.
voilà, de
C'est
formation.
super de s'être formé, oui. Il y a un nouveau prisme, en fait, qui
Ah oui, ouais, tout à fait, ça, ouais, vraiment, c'est vraiment intéressant. C'est à ce moment-là que bon, je me suis penché sur la formation pour adultes et vraiment, oui, c'est intéressant, ouais, c'est une bonne expérience et que j'ai reproduit par la suite, puisque je suis retourné sur les bancs de l'école à Supagro pour suivre des modules de la spécialité vitionneau, il y a 2-3
D'accord.
ans.
Donc il y a eu deux modules de formation différents.
Oui,
Enfin,
mais il y
d'accord.
en a un qui a été validant et l'autre non.
D'accord. De quel projet ou quelle action vous sentez-vous le plus fier aujourd'hui?
C'est pas facile, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a quasiment une cinquantaine de projets portés par des organisations de producteurs qui sont accompagnés par l'Agence de l'eau. Une dizaine là immédiatement en cours d'émergence. Après, il y a tous les projets portés par les collectivités sur les captages. Il y a les projets portés par les chambres d'agriculture, parce que là, une partie de mon travail, c'est d'être en relation et à l'animation des partenariats avec les chambres d'agriculture, pour lesquels il y a des contrats dans chaque département. Donc, des projets, il y en a beaucoup. Il y a un projet qui me tient à cœur, lequel j'ai cité en premier. Je sais pas, je sais pas. Bon, j'ai en cité trois maintenant.
D'accord, trois, très bien.
Là, en ce moment, on a en 2019, 2018 et 2019, on a vraiment initié quelque chose d'intéressant sur les haies, sur la plantation de haies,
D'accord.
sur les captages prioritaires et par les agriculteurs.
Alors, les haies, si vous pouvez juste rappeler peut-être le but de planter des
Ben,
haies.
planter des haies, en fait, planter des haies, c'est quelque chose qui est pas tout à fait naturel. Enfin, c'est pas la tradition en Languedoc-Roussillon. Alors que les haies font partie du paysage. Il y a un paysage, il y a une sorte de maille qui structure. On va pas parler de maille bocagère, mais il y a une maille qui structure le paysage traditionnel languedocien, avec des murets, avec des terrasses, des bancelles, et parfois des haies, des bosquets. Donc il y a du sens. Et puis les haies sont vraiment à la croisée de plusieurs enjeux, plusieurs objectifs. Par exemple, la préservation, la lutte contre les transferts de pollution par les ruissellements, donc de pollution par les pesticides, par les ruissellements, en limitant les ruissellements et en retenant le plus tôt possible en amont du bassin versant les flux d'eau. Donc c'est limiter les forces érosives du ruissellement. Autre enjeu, ben c'est la biodiversité, créer des
Tout
corridors
à fait.
écologiques, la fonction d'écotone. entre les bosquets. La relation changement climatique crée des ombrières, limiter l'ETP, l'évapotranspiration, l'effet brise-vent.
Tout
Ben
à fait.
voilà, plus la production de bois, plus la production
Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup
de
de.
fruits, là, pour le coup, qui est très historique, traditionnel d'un système agricole local. Donc voilà,
D'accord.
il y a beaucoup d'intérêt à planter des haies. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on a bien progressé en 2018 et surtout 2019, puisque l'Agence de l'eau va financer vraiment plusieurs kilomètres, je pense quasiment une dizaine de kilomètres cette année.
Ah oui.
Oui.
Sur les quatre
Sur
départements?
les quatre, non, plutôt d'abord dans l'Aude et l'Hérault.
D'accord.
Mais j'espère bien que c'est quelque chose qui se développera dans les Pyrénées-Orientales. Je sais qu'il y a des agriculteurs qui sont intéressés et dans le Gard plus tard.
D'accord.
Mais voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis assez fier. Enfin, je suis assez fier. J'ai pas fait grand-chose pour ça. Je pense que nous pouvons être assez fiers d'avoir réussi à mettre un pied sur ce sujet. Et j'espère vraiment que ça va se développer.
Et c'est des moments intéressants. L'inauguration de plantation de haies, c'est des moments qui sont conviviaux et enrichissants, j'ai l'impression, pour les acteurs locaux.
Oui, bah oui. Dès qu'on met en lumière les initiatives locales, c'est toujours intéressant, ouais, parce qu'on découvre les réflexions individuelles, les stratégies qui ont été développées, et après ça renvoie à nous, à notre capacité à communiquer. On est souvent pas très très fort sur la communication, et ouais, c'est intéressant de faire des inaugurations de haies. Vraiment, je le pense, ouais.
Très bien. Vous avez parlé de trois
Ah
projets.
oui, ah oui. Donc les haies. Deuxième projet, c'est le sujet des zones humides. Sur le Languedoc-Roussillon, il y a beaucoup de zones humides qui sont plus ou moins entretenues par du pâturage. Et donc, remettre un petit peu comment on peut dire ça? Prendre un peu de recul sur la gestion des zones humides par le pâturage. Et donc, mieux valoriser et mieux gérer.
Ces espaces.
Ça va ensemble. C'est quelque chose qui est intéressant. Donc, on le fait récemment, on le fait sur les prades dans les Pyrénées-Orientales. Je trouve que c'est satisfaisant de réussir à faire ça. Parce que du coup, on est sur du gagnant-gagnant, assez facile à mettre en place. Mais encore faut-il le faire. Bon, voilà. Et troisième projet, ben, c'est un projet. C'est forcément en relation avec la vigne, parce que du coup, c'est l'essentiel de mon activité à l'Agence de l'eau. Donc, ce serait un des projets portés par des organisations de producteurs, où en fait, je n'ai pas identifié de projet, j'ai pu se mettre en évidence le fait aujourd'hui que des organisations de producteurs d'envergure régionale sont vraiment actrices de la préservation de l'environnement, de la
Elles
préservation des
s'engagent.
ressources en eau. Elles sont vraiment engagées. Donc, c'est par exemple là aussi Languedoc ou le groupement Val d'Orbieu, par exemple.
Et c'est autant le fruit du travail des partenaires de la politique régionale que aussi un fruit de la tendance nationale, du
Oui,
marché
oui.
aussi.
Oui, ben, oui, c'est un peu des deux. Oui, c'est à la fois la sensibilité des personnes qui décident, tout à fait, et puis le fait d'une demande, d'une orientation des marchés aujourd'hui qui est de plus en plus forte. Et après, ben, l'Agence de l'eau intervient comme facilitatrice. On apporte du savoir-faire, de la méthode, des financements. Notre rôle, il est celui-là, la facilitation de l'émergence des projets et de la conduite des projets.
Très bien. Eh bien, vous pouvez être fier, vraiment, de ces
Oui,
actions.
merci.
Donc, sur le volet agricole, changer ses pratiques ou sa stratégie de filière pour une organisation de producteurs, ce n'est pas une mince affaire, surtout lorsque cela affecte profondément l'outil de production et le revenu. D'après vous, comment s'y prendre sans trop de risques?
Ben, il y a une chose qui est évidente, c'est, enfin, moi, enfin, on peut que partager ce constat, mais il y a une chose qui est évidente, c'est la progressivité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un agriculteur ou à une organisation agricole de changer de tout au tout brutalement. Il faut respecter la progressivité. Et la première étape, c'est engager de l'expérimentation. C'est-à-dire que donner la latitude à chacun de progresser, de découvrir ou de tester. Voilà, c'est ça, de tester sur son exploitation à l'échelle qui lui convient. C'est un peu ce qu'on a fait avec les MAEC où il y avait un intérêt de tous sur une MAE qui vise à ne plus désherber chimiquement l'interrand. Et donc on a demandé aux agriculteurs pour pouvoir prétendre à cette MAE de développer également sur une fraction de leur parcellaire une MAE qui vise à ne plus utiliser du tout d'herbicide.
D'accord,
Donc
zéro
voilà,
herbicide.
zéro herbicide. Donc c'était très 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 ambitieux. comme affichage, les agriculteurs ont joué le jeu progressivement avec un vrai succès que l'on constate maintenant à l'issue de la dernière année de contractualisation de MAEC en 2019. Et on constate vraiment l'intérêt d'avoir procédé de cette manière parce que du coup, ça a conduit les agriculteurs à tester, à expérimenter sur leurs exploitations, à en tirer les conclusions par eux-mêmes et donc à évoluer dans leur projet. Et
D'accord.
aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a une vraie évolution vers le
Vers le zéro
moindre emploi
herbicide.
ou voire le zéro herbicide, oui, tout à fait.
D'accord. Donc commencer petit
Oui.
pour vérifier la
Tout à
faisabilité et
fait.
puis
Se
étendre
convaincre
au reste.
soi-même et puis regarder ce que fait le voisin. Et puis, à force d'animation, en fait, il faut qu'on s'attache à ce qui est de l'animation
D'accord.
individuelle et collective. C'est le seul préalable à respecter. Et à partir de là, on sait que les agriculteurs évoluent dans l'ambition de leur pratique.
D'accord. Donc progressivité, donc se donner le
Oui,
temps, accompagnement, un préalable.
tout à fait.